en tout cas avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Les positions entre républicains et démocrates sont trop éloignées. Voilà ce qu'a déclaré le secrétaire du Trésor, Steven Mnuchin. Et puis on notera le nouveau record du titre FDJ française des jeux. L'opérateur renoue avec la croissance au troisième trimestre, signe s'il en fallait un que le secteur des jeux d'argent ne connaît pas la crise. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
Merci Céline Pentex, voilà toutes ces informations. Je vous le rappelle, sont à retrouver sur notre site internet. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour le prochain journal. Merci de votre écoute.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, votre quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. Aujourd'hui c'est jeudi et je vous propose une émission remplie d'images. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez D'étoiles plein les yeux, la chronique cinéma réalisée par Margot. Et dans quelques minutes, nous serons avec la compagnie Calao, du nom de ce drôle d'oiseau que j'ai hâte de découvrir. Et vous pourrez voir leur spectacle dessiné dès demain à Louère ou samedi à Chassé. Ça, c'est pour les dates locales, mais on parlera plus largement de tous les lieux où ils vont jouer. Et bien sûr, on va découvrir ensemble les histoires qu'ils racontent et comment. Vous avez le programme de cette émission. Elle a été préparée comme chaque jour par Anne-Lie. Et le dicton qu'on m'a soufflé à l'oreille aujourd'hui et que je partage avec vous juste avant de prendre l'antenne, Mehdi m'a dit « Qui ne tente rien n'a rien ». Voilà pour vous. Bien sûr, on débute l'émission en musique avec « Butterfly » de Léonie Pernet.
Butterfly,
Alors ce soir, je suis avec des Calao, en tout cas c'est leur nom de compagnie. Mathieu Lerouge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dessinateur.
Effectivement.
Et Florent Gilles, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conteur.
Oui, c'est ça.
Alors ensemble, vous proposez des spectacles dessinés. On va pouvoir vous voir prochainement avec l'Île du Tigre, donc dès demain, à l'Ouer, je le disais tout à l'heure. On va parler aussi des prochaines dates. Il y a le 7 novembre à Pruyé. Tout est en ligne sur votre site et je le mettrai aussi en ligne sur la page de l'émission. À vous deux, vous formez la compagnie Calao, que vous avez créée en 2019 avec l'envie de créer des performances scéniques, du live qui rassemble le dessin et le spectacle vivant. Je résume un petit peu dans les grandes lignes. Je sais pas si vous.
Non, c'est bien. Jusque là, c'est parfait.
Jusque là, j'ai pas dit de bêtises. Comment est né ce projet, ce désir, cette envie de compagnie?
Bah, les d'une rencontre.
Ouais, c'est ça.
En 2018, j'avais sorti un livre jeunesse chez Le Seuil. On m'avait fait une proposition de participation pour une nuit de la lecture. Donc j'avais proposé de faire un spectacle dessiné en rapport avec l'histoire de ce livre-là. Et les organisateurs m'ont mis en relation avec Florent pour un premier jet et une première prestation. Le courant est bien passé, donc de là est née l'envie d'aller plus loin, d'essayer de continuer de diffuser ce spectacle-là, de l'améliorer. Et au fil du temps et des envies, on a voulu développer aussi d'autres spectacles sur d'autres thématiques.
Ce premier spectacle, c'était Teinte Caboche.
C'est ça. Okay. C'est ça. C'était donc un récit qui se passait pendant la Première Guerre mondiale. On suivait la trajectoire d'un casque de soldat depuis sa fabrication jusqu'à sa transformation en instrument de musique. Et du coup, de là est née l'envie aussi de s'adresser à d'autres publics sur des thématiques plus larges et variées. Voilà.
Oui, c'est vrai que moi je connaissais pas du tout la lecture dessinée, en fait. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Mathieu, c'était quelque chose que je découvrais. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça, étant passionné de BD, étant passionné de peinture, j'ai trouvé ça superbe de voir ce dessin qui se crée devant mes yeux. Et puis bon, c'est vrai que ça a très bien pris entre nous et on s'amusait beaucoup à faire ça. Donc on a créé tout cet univers donc de spectacles dessinés où il y a de la musique, des bruitages et donc toute cette histoire qui se développe devant les yeux des spectateurs.
Ouais, on va revenir sur concrètement comment est-ce que voilà, vous maintenant vous en faites, vous êtes habitué à ces spectacles dessinés, ce dessin en direct. Vous allez nous expliquer aussi concrètement comment ça fonctionne. Je me demandais aussi Calao, cet oiseau qui est un oiseau très coloré, très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi vous avez choisi ce nom-là, ce symbole-là?
Une grande histoire.
Ah bah, oui, le nom de la compagnie a été sujet à moult discussions.
Ça a duré longtemps.
Pas facile de choisir.
On voulait trouver un acronyme et du coup on a fait une liste de mots qui nous paraissaient importants à mettre en avant. Et puis on a hésité entre le cassoir et le calao et on a trouvé un individu, enfin un type de calao qui nous a tout de suite plu et donc du coup on a finalement opté pour le calao plutôt que le cassoir.
Et vous pouvez le décrire
Le calao, il est étonnant le calao, hein, pour en avoir vu quelques variétés. C'est donc un oiseau terrestre qui paraît, quand on le voit, assez malhabile. Même s'ils volent, il y a différentes espèces. Donc, il y en a certains qui sont très colorés, donc comme celui donc que Mathieu a représenté, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et c'est un oiseau qui a un cri en plus qui est assez surprenant parce que c'est un cri, ça fait penser à un gros corbeau en fait. Hein. C'est cet oiseau oui, assez surprenant et c'est vrai qu'on est assez content de l'avoir comme emblème.
Il a la particularité d'être casqué aussi, c'est-à-dire qu'il a une protubérance osseuse au-dessus de la tête et vu qu'on était en plein dans la promotion de Teinte Caboche, ça nous avait paru être un clin d'œil intéressant. à exploiter.
Mais c'est vrai que quand on voit le calao, on se dit quel est cet étrange animal. Et l'acronyme aussi qui recouvre, donc pour vous, c'est collectif d'artistes ligériens et d'agités oniriques.
C'est ça.
Toute une promesse. Donc vous nous avez parlé de ces spectacles dessinés avec l'importance du live. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit dans ces moments-là de scène?
Alors ça, c'est, il y a tout un dispositif de captation vidéo en fait qui permet de projeter sur un écran le dessin que je suis en train de réaliser.
Donc vraiment à chaque fois, à chaque représentation, vous réalisez les dessins.
Oui, exactement ça. Et c'est quand même des dessins qui sont préparés parce qu'on s'attache à essayer de faire des spectacles synchronisés où l'image qui est en train de se faire est en rapport avec le texte qui est en train d'être dit ou la musique qui est en train d'être passée. Donc du coup, on se donne un certain nombre de rendez-vous de top pour passer à une image suivante ou pour révéler des éléments graphiques ou narratifs par le texte de manière cohérente et afin de raconter une histoire avec ses surprises, y compris dans le texte qui est lu et également dans le dessin qui est en train d'être fait.
Oui, c'est quelque chose d'assez assez réglé en fait, effectivement, au niveau des pistes musicales qui sont lancées, au niveau du texte qui est dit
en direct aussi.
Donc qui est dit en direct aussi. Donc moi je compte donc sur le dessin de Mathieu. Je sais donc à quel moment c'est vrai qu'il est dans les deux spectacles, les deux lectures dessinées, on n'a pas d'improvisation en somme. Tout est vraiment bien réglé. Donc moi je lance, vu qu'on a assez rarement en fait un ingénieur son avec nous. C'est quand même très très rare, ça nous arrive une fois. Donc j'ai un appareil avec lequel je lance les pistes musicales à des moments qui sont bien, comment dire,
bien
précis, bien précis. Oui. Donc voilà, faut tout faire pour pas se tromper.
Ouais, c'est un travail de calage.
Oui, quand même.
Assez précis.
Oui.
Pour être au service du récit, donc.
Ouais.
En termes de dispositif, on a parlé de projection, mais c'est des choses assez légères. Est-ce que c'est, enfin, comment vous projetez en fait?
On a essayé d'être le plus mobile possible pour pouvoir s'adapter à tout type de lieu, tout type de salle, tout en sachant qu'après il faut aussi adapter les moyens techniques en fonction des capacités de salle, notamment au niveau du son. Mais l'idée c'était de pouvoir être mobile et volatile.
Ouais, c'est ça. On revient au calao,
c'est ça.
Non, c'est vrai qu'on est relativement mobile. Hein.
On a
vraiment tout le matériel. On a été jusqu'à concevoir un écran, fait maison avec des trépieds d'enceinte et donc un écran qui se relève, qui est suffisamment large pour avoir quand même un bel écran, quelque chose qui se voit de loin en fonction du public. Il y a un décor pour un décompte qui a été créé, donc qui entoure cet écran, qui est en fait un castellet. C'est ça, je me trompe pas, c'est un castellet. Oui, donc un décor qui a été réalisé par la femme de Mathieu, par Flora.
Que je salue au passage.
Voilà. Et donc qui représente en fait les personnages donc de l'histoire. Donc là, au niveau de la sono, c'est pareil, on est équipé d'enceintes, d'amplificateurs, enfin, qui nous permet vraiment de tourner où on a envie de. Dans n'importe quel endroit, voilà.
Ouais.
Parce que c'est vrai que quelquefois, on a souvent affaire en fait, à des bibliothèques, des médiathèques, qui ne sont pas toujours équipées. Donc ça permet d'être autonome.
Et avec cette forme très mobile, vous déployez les histoires. Enfin, il y a un côté assez magique aussi d'avoir les dessins qui se font en direct, qui sont refaits à chaque fois. C'est quelque chose auquel on n'est pas très habitué en général. Je me demandais, Mathieu, par rapport au dessin, comment vous avez dû l'adapter aussi pour cette forme scénique qui n'est pas le terrain de jeu numéro un quand on pense au dessin. Alors même si vous pouvez faire du dessin dans plein de situations, etc. Mais spontanément, c'est pas ça qu'on imagine.
Bah, c'est vrai que de par mon activité de dessinateur au sens large, j'étais plutôt habitué à travailler un dessin dans ce qui peut avoir de fini. Et c'est vrai que travailler la performance live réinterroge un petit peu ce rapport au dessin-là, puisqu'on est, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre du gestuel et de l'immédiat qui se met tout un coup à raconter autre chose que la finalité du dessin en tant que tel. Et du coup, on essaie aussi de jouer sur le côté énigmatique un petit peu d'un dessin qui est en train de se faire et de se révéler aux yeux des gens. Et donc du coup, c'est vrai que c'est une autre dynamique, un autre rapport au dessin qui, pour le coup, moi, m'intéressait pour aussi à la fois sortir de ma zone de confort et puis aussi pour sortir du rituel très rodé de mon atelier et de ma table à dessin. Mmh.
Voilà. Et donc là, dans les spectacles, on entend votre voix, Florent, ouais, voit vos mains qui dessinent. Mathieu, des fois, il y a des accessoires ou des objets qui peuvent être posés. Ouais.
On essaie d'être, on travaille plus les spectacles tournent et plus on essaie de les retravailler dans une dimension un peu plus interactive,
plus théâtrale un petit peu, où on va là pour l'instant tels qu'ils sont écrits, effectivement c'est plus on est plus dans de la lecture. Là on est en train de développer effectivement ce côté-là où on a envie que ce soit un petit peu théâtralisé, qu'il y ait plus d'interaction entre nous. On a vu que ça fonctionnait très bien et que les enfants, parce qu'il y a quand même, on a deux sortes de publics, on a les enfants et les adultes qui trouvent aussi beaucoup leur compte, dans le sens où c'est vraiment assez magique de voir un dessin en train de se réaliser. Et effectivement, l'interaction aussi était intéressante, hein, dans le sens où ça brise, en fait, je dirais pas la monotonie, parce que les gens sont emportés dans l'histoire, ça, il n'y a pas de problème, mais ça casse un peu le rythme, en fait. Hein. C'est vraiment très intéressant de pouvoir partir sur autre chose aussi, briser un peu la monotonie.
Parce que du coup, c'est vrai que graphiquement, bon, on ne voit pas que du dessin qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sont préparées, il y a des petites surprises, des dispositifs panoramiques ou des choses comme ça pour essayer de justement varier aussi ce qui est amené à être regardé. Et dans les spectacles, dans les derniers spectacles qu'on a créés, qui sont donc des suites de contes, là aussi on a voulu inverser la tendance et faire en sorte que ça soit plus moi qui prenne la main par le dessin, mais que ça soit plutôt Florent dans sa dimension de conteur qui devienne un peu le guide de la chose.
Donc ça, c'est vrai que c'est le deuxième exercice qui est différent des lectures. Ouais. Effectivement. Ou c'est après, c'est toujours pareil, c'est une question de réglage. On s'entraîne quand même, parce qu'il faut aussi que je fasse attention, moi, de pas faire courir Mathieu derrière dans son dessin.
De raconter
donc,
trop vite.
C'est ça. De compter. Effectivement, une histoire, on peut la compter chaque jour et se raconter d'une manière différente, suivant l'humeur du conteur, je dirais, suivant le moment. Ça peut être vraiment très différent d'un jour à l'autre, quoi. Donc c'est quand même de l'entraînement, mais on réussit encore à se donner des rendez-vous, hein, même là.
À se surprendre aussi.
À se surprendre, oui.
Au-delà des accidents qu'il peut y avoir, qui du coup donnent lieu à des petites surprises, y a aussi effectivement des fois des représentations où les choses se passent pas de la même manière. Donc du coup, quand bien même tout a été répété, il y a toujours le même enjeu de toujours essayer d'être au plus juste entre l'histoire, le texte, la musique et le dessin.
Et puis la scène, le direct, enfin toutes ces choses aussi du moment. Ensuite, pendant le spectacle, je voyais qu'il y a 10 à 12 images qui sont réalisées. Vous disiez que ça prend 3 à 5 minutes pour les faire. Ça peut nous permettre aussi de visualiser un peu. Et alors, les histoires que vous nous racontez, quelles sont-elles? Quels sont ces récits? De quoi ça parle? On a parlé de Teinte Caboche. Il y a un autre spectacle, c'est L'île du Tigre. Est-ce que c'est vous aussi qui les imaginez? Est-ce que vous allez les trouver ailleurs?
C'est Mathieu, le créateur. C'est tiré, en fait, de deux de ces histoires qu'il a écrit, donc dont un qui est édité, qui est tiré de l'album Au Seuil Jeunesse, et donc un autre qu'il a écrit aussi. Mais enfin, je lui laisse la parole, c'est lui qui en parlera le mieux.
Bah, oui, L'Île du Tigre était aussi à la base un projet éditorial que je continue de m'acharner à essayer de développer. Mais finalement, il a trouvé sa finalité en spectacle avant de trouver sa forme livresque. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est j'aime bien partir de témoignages ou de c'est aussi pour ça que ça a matché avec Florent, c'est que l'idée de transmission me plaît beaucoup dans les histoires que je peux être amené à traiter ou à écrire. Et du coup, c'était une histoire qui m'avait été transmise par mon beau-père, qui est originaire du Vietnam, il y est né. À l'époque, ça c'était encore l'Indochine, mais du coup, il m'avait fait part, raconté plusieurs fois cette histoire qui était un conte qui était très très local de sa contrée natale. Et étant donné que j'avais pas eu l'occasion de la retrouver dans les différents recueils ou propositions culturelles sur le Vietnam, ben je m'étais dit que c'était l'occasion de s'y mettre. Mmh. et de donner à voir aussi des histoires qui sont pas ou peu connues.
Ouais.
Et puis pour ce qui est des autres spectacles, c'est Florent qui m'a proposé une sélection de contes qui elle est amenée à bouger aussi,
ouais, à s'enrichir et à avoir en fonction aussi des sujets qu'on aimerait traiter. C'est vrai que les contes sont très riches, hein, c'est vraiment tout est abordé et il y a vraiment moyen de s'amuser. Et c'est vrai que dans un premier temps on avait fait un choix de conte, encore une fois parce qu'on nous avait commandé un spectacle, donc ça s'était fait un petit peu dans la précipitation. J'avais regardé les contes qui pouvaient être le plus parlant et donc on était parti là-dessus. Et donc là maintenant on commence à mûrir une réflexion effectivement en se disant que ce serait bien d'enrichir un peu la palette, quoi, d'élargir,
pour pouvoir proposer aussi à des lieux qui devraient répondre à des thématiques ou des choses comme ça. On essaie d'avoir plus de matière aussi à proposer.
Ouais,
mais en littérature également, ça pourrait être, enfin, ce qu'on se disait, ça pouvait être intéressant, la littérature, de pouvoir proposer des lectures dessinées sur des auteurs X ou Y, hein, peu importe, mais des auteurs qu'on aime, quoi.
Ouais, et c'est intéressant de voir comment de vos points de départ, en fait, on voit que le champ d'exploration, il peut être infini.
Oui.
C'est très riche. Vous m'avez envoyé des extraits de L'Île du Tigre.
Oui.
Et si vous voulez bien, on va écouter l'introduction, le tout début.
Avec plaisir.
L'eau et le mont portent la lourde charge d'un serment. Mais l'eau s'en va toujours et ne revient pas vers le mont. L'eau est partie à la mer. Et se souvenant du serment, le mont l'attend toujours. Le mont escarpé attend et désespère. Le torrent asséché verse des larmes jour après jour. L'abricotier dépéri, décharné. Les cheveux de nuages se couvrent d'un voile de neige. Le soleil du soir allonge les ombres sous le ciel de l'ouest, exposant le jade en traits évanescents. Le mont élevé ne se sent point âgé. Il se souvient de l'eau, mais l'eau l'a oublié. Même si le fleuve se tarit et que la pierre s'use, tant qu'il y aura des monts et des eaux, le serment d'antan survivra. Sait-il, le mont si vert, que l'eau partie à la mer revient à la source par la pluie. Ainsi, les eaux et les monts se retrouvent souvent réunis. Ô mont, ne sois donc pas triste. Bien que l'eau continue de partir, réjouis-toi avec ces milliers de mûriers qui verdissent ton flanc. Pour 1000 ans, ils ont promis de s'unir. Les monts et les eaux jamais n'oublieront leur serment.
Donc on entendait l'introduction de L'Île du Tigre par la compagnie Calao. Alors normalement c'est un concert dessiné, là vous n'avez que la partie sonore, la voix, le conte et la musique bien sûr, donc il faut imaginer des dessins qui se font en direct. Florent, Mathieu, je ne sais pas si vous avez envie de réagir, d'ajouter quelque chose à cet extrait.
L'introduction a changé, en fait. C'est toujours la même. C'est toujours la même, mais la piste sonore n'est plus la même. Parce qu'en fait, dans l'île du Tigre, les musiques sont originales. Ça a été composé donc exprès pour le spectacle.
Par Julien Desailly et Julien Mondré.
Voilà.
Julien Desailly étant un musicien flûtiste qui joue du oulouzi, c'est donc l'instrument qui résonne beaucoup qu'on entend, et Julien Mondré qui joue de la contrebasse sur les morceaux.
Voilà, et donc ça accompagne tout le spectacle, et c'est vrai que cette introduction, donc le poème est toujours là, mais par contre il y a plus cette piste, en fait, c'en est une autre.
Ouais, le spectacle évolue.
Oui, toujours.
On a conservé le poème pour introduire le moment du conte, mais le conte démarre vraiment qu'à la fin de ce morceau-là, et c'est la musique qui lance le début du conte à proprement parler. Mmh. Et c'est marrant parce que du coup, très tôt dans l'élaboration de la bande son, j'ai eu envie de proposer à Julien Desailly, qui est un musicien que je connais de longue date, de jouer de cet instrument-là, parce qu'il était dans ma tête très vite associé à cette histoire, qui du coup, pour en dire deux mots, y a un fil conducteur qui est celui du fleuve qui entoure cette île et qui la berce un petit peu, et je trouvais que cet instrument évoquait assez bien la dimension aquatique du conte, de l'histoire.
Ok. Peut-être une dernière question sur comment vos spectacles dessinés sont reçus. Quels sont les retours que vous pouvez avoir de ces formes qui sont assez récentes?
Très 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 bien reçu, très bien reçu. Les gens sont très très surpris. C'est là où je disais justement les adultes, ils trouvent aussi leur compte, dans le sens où ils sont happés par l'histoire, happés par le dessin qui est en train de se faire, la magie du dessin qui est en train de se faire, et puis par ma voix qui accompagne derrière. Non, c'est vrai que les retours sont très positifs. Jusqu'à maintenant,
on n'a
jamais quelqu'un qui est venu qui a tapé du poing sur la table pour dire « Oh non, c'est pas possible, non !»«
J'ai perdu mon temps, laissez-moi tranquille. »
Non, c'est plutôt positif jusqu'alors. C'est bien.
Bon. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Donc je rappelle qu'on était avec la compagnie Calao, avec Florent Gilles et Mathieu Lerouge. Vous pourrez les voir dès demain. C'est à Louer,
oui, c'est
merci.
Ça.
Avec l'île du Tigre. Et samedi, c'est à Chassé. Et puis toutes les autres dates sont en ligne sur le site du Calao, Facebook et compagnie.
Alors les spectacles sont complets déjà pour ce week-end.
Vous les raterez.
Il reste juste un peu de place, je crois, pour le samedi matin. Le samedi matin à Chassé, oui.
Passer un coup de fil. Et sinon, on vous verra début novembre à Pruyé et à Chalin-la-Poterie aussi, dans le nord du Maine-et-Loire, le 12 décembre. Ça nous laisse un peu de temps de...
Oui, ça laisse le temps de revenir.
Bon. Merci encore.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et
à bientôt.
Maintenant, on va écouter Kevin Morby, No Halo. Vous êtes sur le 101.5 FM, les ondes de Radio G, et c'est l'oreille curieuse que vous écoutez. Et maintenant, on va retrouver la chronique cinéma d'Étoiles plein les yeux, réalisée par Margot. Alors, je ne vais pas vous mentir, on écoute une rediffusion, mais une rediffusion de qualité. C'est parti. Bonjour Margot.
Bonjour Annie et bonjour à toutes et tous. Me revoici à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir d'une sélection de scènes. Alors ce soir, j'ai choisi de vous présenter un film qui m'a énormément touchée lorsque je l'ai découvert en salle en 2008. Tout commence avec un scénario en apparence très simple, un récit linéaire à 7 en dialogue que l'image, les sons de la vie quotidienne et la musique remplissent d'une beauté profonde et d'une douce mélancolie. Une œuvre qui tend à démontrer que moins le cinéma nous dit des choses, plus il nous parle.
Et quelle est cette merveille ?
Il s'agit du film 35 Roms de Claire Denis. Claire Denis, c'est une réalisatrice française singulière, dont chaque film est une aventure dans un territoire peu exploré par le cinéma.
Et 35 Roms, de quoi ça parle ?
Le titre est mystérieux et il le restera volontairement tout au long du film. On comprend peu à peu qu'il fait référence à un Paris légendaire qui soude un homme et ses collègues de travail autour de shots d'alcool quand l'occasion se présente. Mais n'allez surtout pas imaginer que 35 Roms est un spot promotionnel pour un produit à consommer avec modération. Le cœur du film, c'est l'affection et la complicité entre un père, Lionel, et sa fille Joséphine qui l'élève seule depuis son enfance. Lionel est conducteur de RER en région parisienne et Joséphine est étudiante. Ces deux-là s'aiment très fort. Mais Joséphine grandit et Lionel réalise que l'oiseau va devoir quitter le nid. Écoutons à présent un premier extrait situé au premier tiers du film. Après une soirée bien arrosée, Lionel traîne au lit. Joséphine lui apporte une aspirine. Le début de la scène est tourné en plan séquence large pour capter la chorégraphie infime entre les deux êtres, au diapason avec le mouvement des dialogues. D'abord le rapprochement, puis l'envol.
Viens plus près.
Joséphine se rapproche. Elle s'assoit à genoux au chevet du lit et regarde son père intensément. Fatiguée et grave, celui-ci prend son temps avant de reprendre.
Je voudrais tellement que tu te sens pas obligé de t'occuper de moi. Je voudrais que tu penses à toi.
Non, tu veux te débarrasser de moi. Tu m'aimes plus.
Joséphine s'affale sur le lit. La position de son visage pendant l'échange, d'abord dominant celui de Lionel, puis à la même hauteur et enfin en dessous, traduit sa volonté inconsciente de prolonger encore un peu son statut d'enfant.
Sois pas triste. Je t'aime.
C'est en contre-plongée que Joséphine regarde à présent Lionel. La caméra s'est rapprochée des visages, saisissant la fragilité et la détermination du père dans ce moment décisif. Puis gros plan sur leurs mains entrelacées, la main noire de Lionel et celle plus claire de sa fille, qui témoignent en toute simplicité du métissage que représente chaque enfant, fruit de ses deux parents.
Sens-toi libre.
La caméra capte le regard intense du père, qui dans sa voix comme dans son regard se fait plus impérieux. Et Joséphine se lève et s'en va. La caméra reste sur le père et ne perd rien de sa mélancolie et de la tristesse de cette séparation inévitable. Sentiment aussi fort qu'universel. Cut. Ellipse délicate. Le plan suivant montre Joséphine au bas de l'immeuble, jogging et basket aux pieds, prête pour un footing.
Jo ! Je viens !
La jeune fille lève la tête vers son voisin du dernier étage. À l'échange de regards avec son père succède celui avec son voisin, comme un passage de relais inconscient. Alors pour évoquer l'origine de son film 35 Roms, Claire Denis explique.
C'est une histoire qu'on m'a racontée tout le temps dans mon enfance. L'histoire de mon grand-père, qui était un homme veuf, qui a élevé seule ma mère, qui n'a pas eu d'autres enfants, qui ne s'est jamais remarié. Avec mes frères et sœurs, on sentait à quel point le moment où notre mère l'avait quitté avait dû être crucial.
Et le comédien qui incarne Lionel, inspiré par le grand-père de Claire Denis, c'est Alex Descasse. Le comédien et la réalisatrice se connaissent très bien, puisque c'est leur 6e collaboration au cinéma. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait, au début du film cette fois-ci. Un arrive en gare. Dans un mouvement fluide, la caméra quitte les wagons pour se tourner vers un homme de profil qui attend sur le quai. Filmé en plan très serré, son visage est mutique dans la lumière pâle du matin. Il regarde le train passer, immobile. Le plan suivant montre un RER qui s'éloigne sur un autre quai. Retour sur le visage de l'homme, que l'on voit à présent de trois quarts. C'est Lionel. Il tire lentement sur sa cigarette et observe. Nouveau plan sur le balai de RER. On comprend alors que Lionel n'est pas un passager ordinaire. Toujours en plan serré, la caméra revient sur son visage et descend le long de son manteau. Il écrase sa cigarette et la musique met fin à son attente. Dans la cabine du chauffeur du RER, en léger contrebas, les rails sont comme aspirés par le train. Le soleil de ce matin d'hiver éclaire le paysage de banlieue et les RER en face. Image envoûtante que la musique de Cinder Sticks teinte d'une poésie magnétique. Dans la cabine, surprise. Le visage en plan serré concentré sur les rails n'est pas celui de Lionel, mais d'un de ses collègues. Le RER descend dans un tunnel. Et en ressort, quelques instants plus tard, au crépuscule. Ellipse majestueuse. La journée a passé. Les mêmes rails sont à présent dans l'obscurité et les dernières lumières du jour dessinent la silhouette d'un environnement périurbain, alors que l'on croise d'autres RER. L'obscurité de la nuit laisse deviner le reflet dans la vitre du conducteur concentré, puis ceux des passagers qu'il transporte, transpercés par endroits des lumières de la ville. Comme une boucle, la scène se termine sur un plan serré du visage de Lionel qu'on devine plus qu'on ne voit dans l'obscurité sur le quai. La journée est finie, il allume une nouvelle cigarette. Le balai des RER se poursuit sur les quais et l'image montre des petits carrés lumineux qui défilent dans la nuit, raccompagnant les voyageurs chez eux.
Le RER a la spécificité d'être lié profondément à la vie des gens. Il les amène au bord de la ville et les ramène dans leur banlieue. Il fait ce boulot de passeur entre deux mondes qui s'ignorent un peu.
C'est à Claire Denis que l'on doit ces mots. Écoutons maintenant un nouvel extrait pour découvrir l'autre monde de Lionel, son foyer. La vitrine d'une boutique qui déborde d'appareils ménagers alignés sur des étagères. Derrière l'un d'entre eux, une jeune femme, Joséphine, qui choisit un rice cooker.
Je vais prendre celui-là.
Ce sont les premiers mots du film, si révélateurs de son enjeu. Joséphine est à l'heure du choix entre rester auprès d'une figure paternelle aimée et prendre le risque de tomber amoureuse. La jeune femme est rentrée chez elle, plan séquent fixe et large, avec au centre de l'image un long couloir dont on devine qu'il sépare les espaces de vie, comme une scène de théâtre qui permet un ballet décor ritualisé. La chambre de Joséphine, d'un côté, où elle dépose le nouveau rice cooker, et tout au fond, des portes closes, probablement le royaume du père. On pénètre dans cet appartement comme dans la routine de ses occupants. La réalisatrice s'interroge.
Comment installer un rituel dans un film alors que c'est la première fois que nous, spectateurs, voyons les personnages? Il fallait que d'emblée, on sente que leurs gestes sont répétés.
C'est un sac que la formidable Mathy Diop, qui interprète Joséphine, vide mécaniquement. Ou un gros plan sur le tambour d'une machine à laver qu'elle remplit avec son linge. Ou alors un autre sur son visage pensif, alors qu'elle cuisine. La caméra reste sur le visage de Joséphine. Le bruit de la sonnette en hors-champ signale que le père est rentré. Sourire de la jeune fille, et l'on sent que la suite est tout aussi ritualisée que ce qui prétait.
Oui, j'ai encore fumé.
Le balai se poursuit. Joséphine apporte ses pantoufles à son père, assis dans le couloir. Puis elle retourne à la cuisine et ouvre le frigo.
Il y a de la tomate et de la laitue, on fait une salade ?
Oui, si tu veux, c'est bien.
Claire Denis explique.
La première scène dans l'appartement, je l'ai écrite comme s'il s'agissait d'un couple qui se retrouve après une journée de travail.
Le père rejoint sa fille dans la cuisine et dépose sur la table, fier et content de lui, un rice cooker tout neuf.
C'est beau! Super d'y avoir pensé.
regard amusé entre Lionel et sa fille, dont la complicité paraît soulignée par ce rice cooker acheté en double. On le comprend, les premières minutes nous introduisent dans l'univers bien rodé de ce couple filial. Puis peu à peu, le champ d'observation du film s'élargit et déborde le cadre moyen de ce noyau dur. Dans l'escalier de l'immeuble, un jeune homme monte, puis s'arrête sur le palier, à l'écoute de la musique qui s'échappe de l'étage. En plan serré, le profil de son visage se découpe, silhouette noire dans la faible lueur de l'escalier. Il monte, redescend quelques marches, hésite, comme aimanté par la musique. La caméra nous montre ce qu'il regarde. La porte, au fond du couloir, de l'appartement de Lionel et Joséphine, d'où vient la musique. Filmé en contre-plongée, cheveux mi-longs, barbe naissante, le visage s'affirme. C'est Noé, interprété par Grégoire Collin, un autre fidèle de la troupe de Claire Denis. La réalisatrice en parle.
Je ne voulais pas qu'il devienne le Grégoire des autres films. J'avais envie qu'il ait l'air d'un pirate.
La caméra s'approche lentement de la porte de l'appartement et le plan suivant nous montre Noé dans le couloir qui finit par tourner les talons, repartant avec son mystère. La scène paraît tourner en temps réel et pourtant de courtes ellipses de montage renforcent son intensité. Le comédien Grégoire Collin explique.
Mon personnage, Noé, est dans la périphérie de ce noyau qu'est le père et la fille. On a tâtonné, ensemble, avec Claire. Même dans le scénario, il y avait quelque chose qui n'était pas défini, qui n'était pas décidé. Qui était Noé? Qu'est-ce qu'il faisait? Finalement, on a laissé les choses en l'état.
Allez, pousse-toi, voilà.
Noé rentre chez lui, accueilli par son chat. La musique de Cinderstick reprend, habitant les quelques plans que nous montre un appartement en bazar et les bambous sur la terrasse. En écho à la musique, la caméra sort de l'immeuble et évolue fluidement le long de la façade, capturant autant de fenêtres sur appartement et sur vie. D'abord celle de Joséphine et son père, puis une autre habitante, Gabrielle, femme d'âge mûr qui fume pensivement à sa fenêtre. Suivant son regard, la caméra nous montre le balai de RER qui se croise. Petits carreaux lumineux en mouvement et variations animées du plan suivant sur des fenêtres des immeubles le long des voies. Un soir sur terre, en périphérie de Paris. Les principaux personnages sont présentés, les rares décors posés. Dans cet appartement, dans cet apparent dépouillement, le film va infuser délicatement. Écoutons un dernier extrait, une scène magnifique de sensualité, l'acmé émotionnel du film tourné presque sans parole. À 30 minutes d'intervalle, la scène fait un écho silencieux au dialogue du tout premier extrait. Entre les deux scènes, quelques jours ont passé, avec leur lot de peines, de rencontres et quelques shots de rhum. Pour l'heure, la petite bande de l'immeuble est de sortie. La pluie tombe à verse et ils se sont réfugiés dans un café. Une nouvelle ronde de nuit cette fois-ci se prépare et le temps de deux chansons, le film amorce son basculement.
Ok. Ouais, merci.
La caméra longe le bar, accrochant en gros plan les visages de la troupe rescapée. La musique et l'alcool incitent à la sensualité. Regard frontal de Noé et contre-champ sur le visage farouche de Joséphine, troublé par sa caresse tendre sur ses cheveux. Puis gros plan sur les épaules de Gabrielle et légèrement décolleté, qui cherche l'attention de Lionel. Ellipse. Le plan suivant montre Gabrielle et Lionel dansant joue contre joue. Après la ronde des regards, le ballet des corps. Visage de Joséphine qui les observe, sourire amusé. Ces deux-là flirtent ensemble depuis un moment. Son père lui répond par un autre sourire. Cette danse n'entame en rien leur complicité et se poursuit par plans interposés.
Toi, tu danses pas.
Pourquoi tout le monde me regarde ?
Noé tente de casser l'échange silencieux entre le père et la fille. Accompagnant cet effort, la caméra oublie le couple des adultes et se penche sur les deux jeunes gens qui se lancent à leur tour dans une conversation silencieuse faite de regards et de sourires. La réussite de cette scène, quelques lignes dans le scénario et quasiment 10 minutes ponctuées de rares dialogues à l'écran, tient à l'accord parfait entre la réalisatrice et sa directrice de la photo, Agnès Godard, à qui elle rend hommage.
Agnès voit les choses comme moi. Nos regards s'accordent. C'est aussi le sentiment que nous avons des choses, le rapport qu'on a avec les lieux et le goût des visages, de certains visages.
Simone. À l'image, Gabriel et Lionel se séparent. Avec fluidité, la caméra suit le père qui invite sa fille à danser. L'intensité de leur affection réciproque envahit leur sourire, alors que l'image en plan moyen, c'est-à-dire plus distant que les précédents, suit leur pas de danse. Changement de musique et changement de cavalier. Avec la soul sensuelle des Commodores, apparaît, en amorce de l'image, Noé, qui traverse tranquillement l'écran pour ravir la fille à son père. Regard et sourire, et c'est au père maintenant de traverser l'écran pour ressortir du champ, là où Noé y était entré. Claire Denis évoque cette chorégraphie féline.
Je crois que la scène est troublante comme un rituel de passage, une sorte de cérémonie. Le père donne la fille. Ce trouble, nous aussi, on l'a ressenti sur le plateau.
La danse est tournée en plan séquence, qui accompagne avec fluidité ce passage de relais. La musique encourage au rapprochement des corps et se déroule sous nos yeux une danse pudique à l'érotisme affleurant. Jeu de mains et de regards, cheveux qu'on libère. Ce rapprochement inévitable de Noé et Joséphine se fait sous les yeux du père, et le plan séquence de la danse se retrouve interrompu par le contre-champ sur le visage fermé de Lionel. Comme si l'image matérialisait les hésitations de Joséphine, partagée entre son désir de se livrer à Noé et sa volonté de rester proche de son père. À mesure que les corps de Joséphine et Noé se rapprochent, la caméra les filme de plus en plus serrés. Leur sensualité inonde l'écran. Le pirate rapproche lentement son visage de celui de sa partenaire et finit par l'embrasser. Elle se dérobe et s'assoit sur une banquette, l'attirant à côté d'elle, mais sur une autre banquette. La caméra s'est un peu éloignée du couple. Un autre plan séquence démarre, qui commence sur la serveuse du restaurant. Elle dispose tranquillement les plats devant les convives répartis dans la petite salle, chaleureuse. La caméra suit ses mouvements fluides et efficaces. Elle s'approche enfin de Lionel, et avec les yeux du père, on la découvre séduisante, robe joliment décolletée sur la poitrine. Contre-champ sur Lionel qui avale un nouveau shot de rhum en regardant ostensiblement la jeune femme. Quand elle fait mine de repartir en cuisine, la caméra glisse sur son bras nu et montre la main de Lionel qui la retient. La serveuse se laisse faire et une nouvelle danse commence, visage du couple cadré très serré. Cette longue scène de danse se termine par un contre-champ sur Gabrielle, la voisine éconduite, qui rentrera seule au bout de la nuit. Joséphine, quant à elle, perçoit le message. Elle doit vivre sa vie comme son père, la sienne. J'aimerais finir cette chronique en citant Ingrid Cavan, comédienne et chanteuse allemande qui tient un petit rôle dans 35 Roms.
Ce film est un objet qui garde son mystère.
Et vous l'aurez compris, je vous le recommande chaudement. On se quitte en réécoutant Night Shift des Commodores, histoire de prolonger le charme de la scène de danse.